Merci d'être à l'écoute de RFI. Les 16h à Paris, 15h en temps universel et 17h à Beyrouth. Le journal vous est présenté par Karine Bellicha. Bonjour Karine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, les bombardements israéliens s'intensifient au Liban cet après-midi. Des raids dans plusieurs quartiers de Beyrouth. Un déluge de feu contre les fiefs du Hezbollah qui pourrait précéder une annonce de cessez-le-feu. Les pressions internationales sont fortes pour qu'Israël valide l'accord négocié par Washington et Paris. L'arrivée de Donald Trump va-t-elle changer la donne en Ukraine en faveur de Moscou, tout en se disant prêt à travailler avec le futur locataire de la Maison-Blanche? Kiev le redoute, ses alliés européens aussi. Le Parlement de Strasbourg en a débattu ce matin. Les débats ont été vifs, compte rendu dans ce journal. Et puis les agriculteurs français multiplient les actions avant un débat et un vote à l'Assemblée nationale. La profession est toujours vent debout contre le traité de libre-échange du Mercosur avec les pays latino-américains. Le gouvernement espère, lui, un vote unanime des députés contre le traité tout à l'heure. Au Proche-Orient, l'armée israélienne mène cet après-midi une attaque à grande échelle contre des cibles liées au Hezbollah dans le secteur de Beyrouth. Des raids massifs simultanés dans plusieurs quartiers du sud de la capitale libanaise. Une intensification des frappes qui, paradoxalement, pourrait augurer un cessez-le-feu. La pression internationale s'accentue. En Israël, le cabinet de sécurité est en cours. Il doit décider ou non de valider le texte négocié par les États-Unis et la France. L'accord prévoit un retrait du mouvement chiite et de l'armée israélienne de la zone sud du Liban pour laisser la place à l'armée libanaise, le tout sous l'œil d'un comité international. Est-ce que l'ONU pourrait être impliquée alors que la FINUL, la mission onusienne au Liban, semble impuissante depuis des années à faire respecter le droit international sur place? Des éléments de réponse avec notre correspondante à New York, Karine Oten.
L'ONU n'est absolument pas impliquée dans la négociation de cessez-le-feu au Liban. Il s'agit clairement d'une initiative de Washington qui travaille en solo, mais on peut lui prédire un rôle dans l'application de cet accord s'il était conclu. D'autant qu'hier, justement, la force onusienne au Liban, la FINUL, a exprimé sa profonde inquiétude à propos des attaques meurtrières d'Israël contre l'armée libanaise. Pour que la FINUL puisse surveiller que l'accord de cessez-le-feu soit bien appliqué, il faudrait que son mandat soit modifié en ce sens par le Conseil de sécurité. C'est ce qui s'est passé en 2008, alors que la résolution 1701 a fait se déployer les casques bleus aux côtés de l'armée libanaise dans le sud du pays. Si le nouveau mandat était plus agressif et que la communauté internationale demandait aux soldats de la FINUL de désarmer d'autres groupes armés, par exemple, il faudrait alors augmenter leurs ressources. Une autre solution pourrait être de créer une nouvelle entité sous l'égide du Conseil de sécurité, comme ce qui a été fait en Haïti avec la mission multinationale d'appui à la sécurité ou par la CDAO au Libéria, une piste plus plausible étant donné comme Israël ne porte pas la FINUL en haute estime. Karine Oten, New York, RFI.
Autre guerre en Europe cette fois, l'Ukraine a essuyé une pluie d'attaques de drones la nuit dernière. Une attaque sans précédent depuis le début de la guerre selon les autorités du pays. La pression militaire russe est chaque jour plus intense et Kiev redoute l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le président américain élu a promis de faire la paix en 24 heures. Obtenir un accord à tout prix pourrait conduire à entériner la partition de l'Ukraine au profit de Moscou. Si cette crainte est partagée en Europe par les pays alliés de l'Ukraine, d'autres, au contraire, poussent à un changement de doctrine. Il en a été question ce matin au Parlement européen de Strasbourg, réuni en session plénière. Daniel Valot était sur place pour RFI.
Nous devons renforcer notre aide auprès de Kiev. Le commissaire à la justice Didier Reynders s'inquiète à la fois des difficultés de l'Ukraine sur le front et de l'arrivée prochaine de Donald Trump à la Maison-Blanche. Un scénario salué au contraire par les partis d'extrême droite qui accusent les Occidentaux d'avoir joué l'escalade militaire en Ukraine, à l'instar de Jean-Paul Garot, eurodéputé du Rassemblement national.
Aux États-Unis, un président à bout de souffle pousse l'Occident à la confrontation générale en autorisant l'Ukraine à tirer des missiles longue portée sur le territoire russe. C'est une grave faute.
Et d'appeler à la négociation avec Vladimir Poutine, ce qui serait la seule façon de garantir la paix en Europe. C'est une musique du renoncement, dénonce à gauche le socialiste français Raphaël Glucksmann.
Vous venez de nous dire qu'il nous faut à tout prix éviter l'escalade. Mais posez-vous la question. Qui suscite l'escalade, sinon Poutine, qui envoie des milliers de soldats nord-coréens sur le sol européen et des missiles balistiques sur Dniepro.
Raphaël Glucksmann qui déplore la faiblesse de l'aide européenne apportée actuellement à l'Ukraine et qui appelle à la formation d'une coalition de pays pour lui venir en aide face à la Russie. Daniel Valo, Strasbourg, RFI.
Aux États-Unis, c'est la question des droits de douane qui fait déjà réagir. Avant même l'arrivée de Donald Trump dans le bureau ovale, le président élu a promis hier d'augmenter fortement ses taxes sur les marchandises en provenance de Chine. Le Canada et le Mexique sont aussi visés. En France, le gouvernement va-t-il obtenir l'unanimité de l'Assemblée contre le traité du Mercosur ? Un débat puis un vote sont prévus dans l'hémicycle. Une position commune des partis donnerait du poids à la position française face à la Commission européenne. Paris tente de fédérer et de bâtir une minorité de blocage. La Pologne s'est-elle aussi rangée du côté du non au traité de libre-échange avec les pays latino-américains ? Les agriculteurs français entendent maintenir la pression. Ils sont mobilisés un peu partout sur le territoire. Les syndicats agricoles dénoncent les entraves et les normes qui seraient imposées par le traité du Mercosur, comme Laurence Marandola, porte-parole de la Confédération paysanne. On l'écoute.
Les conséquences, c'est un impact direct sur le marché, en particulier des viandes, mais aussi du miel. Avec cet accord de libre-échange en plus, c'est 7% de la viande bovine européenne qui serait importée du Mercosur, avec des tarifs beaucoup plus bas. Donc ça va chambouler l'ensemble des équilibres déjà très fragiles du marché de la viande en Europe et du coup tirer les prix vers le bas. Et il y a des agriculteurs, des éleveurs qui ne pourront pas résister. Alors qu'ils font un super boulot avec de l'élevage pour certains à l'herbe, de la viande de qualité, mais ils ne pourront pas lutter. Et c'est donc fragiliser encore le secteur de l'élevage et perdre à court terme, perdre des éleveurs. On l'a connu avec l'élevage ovin, avec la signature d'accord avec la Nouvelle-Zélande. C'est la moitié des éleveurs ovins et des troupeaux de moutons qui ont disparu en 15-20 ans en Europe et en France en particulier suite à des accords de libre-échange.
Laurence Marandola, porte-parole de la Confédération paysanne, elle était interrogée par Anne Verdaguet. Une page de culture dans ce journal et 29 minutes pour se plonger dans un retour et une réalité migratoire prégnante. Aux îles Canaries, l'acteur sénégalais Timbo Sambe a dévoilé le dernier court-métrage dans lequel il tient le rôle principal et qui raconte son retour dans son village natal, un village quitté 15 ans plus tôt pour rejoindre justement l'archipel espagnol à la recherche d'une vie meilleure. Une projection émouvante à Las Palmas. De jeunes migrants étaient dans la salle et Nicolas Kirilovitz pour RFI Reportage.
Et des applaudissements en forme d'ovation pour Timbo Sambe qui se dévoile plus que jamais dans ce documentaire à Kayar, son village d'enfance. On le suit avec ses proches, sa famille et les nombreuses questions qui le tourmentent. Pour l'acteur sénégalais arrivé aux îles Canaries en 2006, présenter ce court-métrage dans l'archipel, c'est avant tout l'occasion de transmettre un message aux jeunes venus l'écouter et arriver comme lui dans des embarcations normalement destinées à la pêche.
Ce que je leur dis, c'est que l'Espagne, ça n'est pas ce que l'on croit. Quand on vient ici, il faut étudier et surtout se former et faire tout ce qui est possible pour savoir que l'on peut se choisir un avenir.
Un message entendu notamment par Youssou, un jeune Sénégalais de 17 ans, originaire lui aussi de Kayar. S'il rêve de réussir comme Timbo Sambe, Youssou n'en oublie pas pour autant l'essentiel pour lui, sa famille.
Oui, je l'aime beaucoup.
C'est mon rêve de faire comme ça, comme Timbo. Actuellement, je suis en train d'apprendre l'espagnol, mais dans le futur, je veux travailler pour aider ma famille au Sénégal aussi.
Et depuis le début de l'année, plus de 6000 Sénégalais ont réussi la traversée vers les Canaries, une tendance à la hausse qui ne s'inversera qu'avec un changement de paradigme entre l'Afrique et l'Europe, estime Timbo Sambe.
S'ils veulent que nous arrêtions de venir ici, ils doivent alors cesser de voler nos ressources et de signer des accords avec des gouvernements corrompus.
Un message fort que l'acteur espère porter lors de la prochaine cérémonie des Goya en remportant le prix de sa catégorie le 8 février prochain. Et Nicolas Kirilovitz, Las Palmas de Gran Canaria, RFI.
Et puis un mot de football pour finir ce journal. Brest veut encore y croire ce soir en Ligue des Champions. La petite équipe bretonne se déplace sur le terrain du FC Barcelone et espère poursuivre son parcours de rêve. Le PSG joue lui quasiment sa survie dans la compétition. L'équipe parisienne sera opposée au Bayern à Munich. Voilà, c'est la fin de ce journal.